suis enfant, sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture, je suis humain, simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière, pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans dunimètre de la Fédération Anarchiste, la société dans tous ses états, comme tous les troisièmes lundis du mois, avec Lulu à la technique. Bonjour Lulu. Aujourd'hui, salut. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous dans le studio, en direct, David Chavalarias, pour son livre « Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions ». C'est l'édition de poche chez Flammarion, dans la collection « Champ Actuel ». Un livre qui était paru donc en mars 2022. C'est bien ça, David ? Bonjour.
C'est ça. Et bonjour.
David Chavalarias, vous êtes mathématicien, directeur de recherche CNRS au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École des hautes études en sciences sociales.
C'est ça, tout à fait.
Et vous êtes directeur donc de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Vous avez lancé en 2016 le projet Politoscope, qui est dédié à l'analyse des réseaux sociaux et du militantisme en ligne. Alors, première question, quelle est la relation entre les mathématiques et les sciences sociales ?
Alors, les mathématiques, de manière générale, hein, servent à beaucoup de choses, mais notamment à comprendre les structures et les évolutions. Et en sciences sociales, on s'intéresse notamment à la manière dont les groupes sociaux peuvent se former, dont les idées peuvent circuler entre les différents groupes sociaux. Et donc, il y a tout un domaine qui vise à essayer de comprendre des propriétés génériques qui découleraient ou émergeraient à partir de certains types d'interactions. Donc, il ne s'agit pas, en fait, de comprendre ou de modéliser l'individu dans son détail, notamment de prédire qu'est-ce qu'il va faire, mais plutôt de comprendre comment se forment des sociétés, quel est l'impact de contraintes au niveau des interactions entre les gens sur la manière des les groupes qu'ils forment. Et donc il y a toute une tradition, on va dire, qui est même de fin 20e siècle, hein, sur la modélisation en sciences sociales. Mais en fait, elle a connu un regain d'intérêt, notamment parce que avec la numérisation de la société, de plus en plus d'interactions se font en ligne, et donc on a des données à très large étude. Alors déjà, les mathématiques, faut quand même le dire, étaient très étudiées très utilisé en sciences sociales, ne serait-ce que pour la branche statistique. Quand on fait grandes études, on essaie de comprendre les corrélations entre différentes propriétés des uns et des autres et le social. Mais là, il s'agit aussi de comprendre les structures. Et donc, comme maintenant, il y a beaucoup d'activités qui se font en ligne, on a des cohortes assez importantes et on peut suivre les interactions sociales sur de très longues périodes, dans des domaines, par exemple, sur des réseaux sociaux ou sur des marchés, et essayer de comprendre. Par exemple, les économistes vont s'intéresser à comment un marché influence, la structure du marché influence les échanges et l'économie. En sociologie, on va s'intéresser à, par exemple, on va en parler là, à la manière dont les structures d'interaction, notamment celles qui sont contraintes par les réseaux sociaux numériques, influence la manière dont on fait société et dont on forme des groupes sociaux. Et ça, donc, dedans, les mathématiques jouent un rôle pour essayer de comprendre ces objets-là.
Alors, les réseaux sociaux, on connaît tous, on a entendu tous parler, peut-être beaucoup de nos auditeurs les utilisent au quotidien, les plus connus, donc Facebook, alors on doit dire X maintenant, on dit plus Twitter, hein, alors,
oui,
on peut continuer à dire Twitter parce que Twitter, l'habitude a été prise, mais il y en a d'autres, hein, TikTok, Instagram, etc.
Tout à fait.
Et dans votre livre, vous vous intéressez au fonctionnement de ces réseaux sociaux et aussi aux influences de ces réseaux sur la société et comment les groupes sociaux ou les individus, les agents, on parle d'agents en sociologie, interagissent grâce ou par ces réseaux sociaux. Alors, une première question, c'est comment vous en êtes venu à faire cette étude et à plonger dans cette boîte noire des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a amené, en dehors du fait de peut-être d'utiliser certains outillages conceptuels, qu'est-ce qui vous a amené à vous plonger dans cette nébuleuse un petit peu des réseaux ?
Donc, je m'intéressais donc depuis pas mal de temps d'un point de vue un peu théorique sur des questions de comportement collectif, et donc j'ai vu vraiment monter l'importance des réseaux sociaux et des interactions numériques sur à la fois l'actualité, la circulation d'informations, la désinformation. Donc on a eu par exemple le Brexit quelques temps avant, après on a eu Trump. Et puis aussi, même dans les années 2014-2015, on voyait notamment sur Twitter de plus en plus d'opérations d'amplification de polémiques. Par exemple, on peut penser à un épisode qui s'appelle « Je porte mon maillot, porte Léo », où il y avait une altercation entre des jeunes filles dans un parc Léo, je crois que c'était Reims, la ville.
Ah oui, je me souviens de ça.
Et
oui.
Donc, et pendant un week-end, avait tourné sur les réseaux sociaux qu'en fait, c'était en gros une Française qui s'était fait tabasser par des jeunes filles plutôt d'origine immigrée sur le fait qu'elle était en maillot de bain et qu'elle ne devrait pas être en maillot de bain et que c'était pas correct, etc. Et donc, il y avait eu l'extrême droite qui s'était emparée de cette affaire et avait monté ça en épingle pendant tout le week-end. Et le lundi, la préfecture publie un message en disant « Il n'y a aucun motif religieux dans tout ça, c'est juste quelqu'un qui lui a dit « C'est pas l'été, va te rhabiller » et ça a dégénéré. » Et donc, on voit comment, en fait, un fait divers qui n'a rien. On l'a d'ailleurs vu très récemment aussi avec Thomas, enfin l'affaire Thomas. Donc comme un fait divers.
C'est ce jeune homme de 16 ans qui a été tué dans un bal de village dans la Drôme.
C'est ça. Où ça a été aussi mis en perspective comme un problème lié avec des bandes, etc. issues de l'immigration. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que de plus en plus, des faits divers vont être récupérés en ligne par des groupes politiques avec des visées très précises et amplifiés pour faire croire à un certain type de narratif. Et donc on l'a vu donc avec au Parc Léo, on l'a vu aussi par exemple, il y a eu un concert, je parle toujours de ce qui m'a amené à ça, il y avait eu un concert de Black M pour la commémoration de Verdun qui avait dû être annulé parce qu'il y avait eu une sorte de cabale pendant une semaine de l'extrême droite qui avait repris des paroles d'anciennes chansons et qui le décriait comme anti-blanc. Et du coup, la mairie avait commencé à retirer son soutien, etc. Et finalement, il n'avait pas pu faire son concert. Alors, quel qu'en soit, en fait, le fait, c'est savoir si c'est justifié ou pas. On voyait bien que dans ce genre d'affaires, le fait d'amplifier un message sur les réseaux sociaux devenait vraiment très efficace pour faire passer un message et même accéder, déboucher sur quelque chose dans la vie réelle. Donc, voyant ça, et voyant donc aussi Trump qui utilisait les réseaux sociaux, avant lui, Obama avait aussi beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Le Brexit, il y avait aussi. Donc, je trouvais que c'était important de commencer à faire une veille, en fait, sur les réseaux. Et il se trouve que l'un des réseaux le plus accessible en termes de données était Twitter. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs travaillent sur Twitter. L'idée, c'était de faire une sorte d'observatoire de la vie politique sur Twitter, qui, par ailleurs, était aussi un réseau social très central dans la communication politique. Hein. Tous les candidats avaient au moins un relais de leur équipe de campagne sur Twitter pour observer à la fois donc la communication politique et la manière dont les différents groupes politiques interagissaient, mais aussi les tentatives de manipulation de cet espace-là et donc du coup par ricochet de l'espace médiatique.
Alors, vous avez créé donc vous avez lancé en 2016 un projet qui s'appelle Politoscope.
Tout à fait. Donc ça, c'était ce fameux projet qui avait pour but d'observer le militantisme politique en ligne et d'essayer de voir aussi s'il y avait des opérations d'influence à travers ce genre de réseau.
Alors, on va commencer par donner deux exemples. Le premier, c'est une campagne qui était menée aux alentours de 2001, je crois, concernant Paris et la propreté de Paris. Campagne qui s'est appelée, c'est alors le hashtag, hein, cette espèce de signe.
Saccage Paris.
Saccage Paris.
2021. Oui. Alors. Typiquement, encore en. Autre exemple, en gros, d'amplification d'un type d'opinion. Alors, quand on parle d'amplification, on parle de quoi, hein? Faut, juste pour être clair, on milite tous sur les réseaux, hors des réseaux. Enfin, c'est la vie politique consiste à exprimer ses opinions. Il s'agit en fait de synchronisation de militants sur un réseau social, éventuellement accompagné de faux comptes, donc de robots, pour faire croire en fait à un soutien d'une population à une cause. Donc ça s'appelle l'astroturfing. Mmh. Et non seulement on veut faire croire aux usagers du réseau, en faisant croire que tout à coup il y a beaucoup d'activités, etc. Mais aussi on essaie de tromper les algorithmes de recommandation, donc par exemple ceux qui mettent en tendance, typiquement Saccage Paris, de manière à ce que cette thématique ruisselle par la suite sur tous les autres utilisateurs. Alors Saccage Paris, c'est un très bon exemple. Donc Saccage Paris, c'était quoi? C'est d'ailleurs toujours, hein, de temps en temps, ça ressort. C'est un hashtag donc, qui vise la ville de Paris, notamment Anne Hidalgo, sur le fait que Paris est sale, Paris est mal entretenu, etc. etc. Et donc, il y a des sortes de raids numériques où tout à coup, on voit plein de messages qui disent ma ville est mal entretenue, il y a des photos de poubelles, etc. Il y a trop d'embouteillages, enfin bon, tout ça. Sauf que quand on regarde d'où viennent ces messages, dans l'espace politique, avec des techniques qu'on va peut-être détailler plus tard, on s'aperçoit que c'est pas l'ensemble des Parisiens qui réagit comme ça. C'est pas un vécu de l'ensemble des Parisiens. C'est un sous-ensemble de l'espace politique qui essaye de mettre ça à l'ordre du jour en publiant beaucoup de messages et beaucoup de photos Saccage Paris dans l'espoir d'être suivi par d'autres et aussi d'arriver en top tendance dans des médias comme Twitter. Et donc, l'utilisateur lambda, quand il ouvre son interface, il voit, attention, Saccage Paris, nouveau sujet, il regarde et il découvre que Paris est sale, etc. Donc là, on a une sorte de manipulation de l'agenda de l'attention, mais aussi avec peut-être espoir de manipuler l'agenda médiatique, au sens où on veut que les journalistes aussi reprennent ça, en parlent. Et c'est aussi aller dans les médias, ça. D'ailleurs, on en a parlé un peu dans les médias. Et donc de faire croire que c'est un sujet qui concerne beaucoup de Parisiens, alors qu'en fait, ça, c'est peut-être ça concerne beaucoup de Parisiens, mais en tout cas, c'est mis en avant par un très petit nombre qui sont localisés de manière très très précise dans l'espace politique. Là, en l'occurrence, c'était la droite classique, quoi.
Un autre exemple que vous donnez, alors celui-ci en introduction du livre, c'est au moment de la campagne présidentielle 2017, avec la révélation de ce qu'on appelle les Macron Leaks.
Oui, donc ça c'est un autre exemple, c'est aussi un très bon exemple, et ça, ça montre le caractère un petit peu internationalisé des réseaux sociaux. Donc les Macron Leaks, c'est quoi ? C'est on est à une minute avant le début de la période de réserve pour le second tour, donc où les médias vont devoir se taire par rapport aux élections, et apparaît sur le réseau un lien vers une archive numérique qui est censée contenir l'ensemble donc des échanges mail de l'équipe En Marche, d'Emmanuel Macron, avec des documents soi-disant compromettants. Et donc pendant 48 heures, donc jusqu'à l'élection, cette idée que... Alors, il y avait effectivement des documents, hein, c'est des vrais mails notamment, mais l'idée que ces vrais mails contenaient des documents effectivement compromettants et que du coup ça changeait la donne de l'élection a circulé assez intensivement donc pendant 48 heures et a été relayée, et ça on a pu le mesurer, par deux groupes principalement, l'extrême droite française. On pouvait s'imaginer pourquoi, puisque c'était le deuxième tour, c'était Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, et l'extrême droite américaine. Et en fait, quand on regarde comment a émergé cette affaire-là, et ça a été documenté notamment par des rapports de services de renseignement, etc. Donc vous avez les serveurs de LREM qui ont été piratés très vraisemblablement par des hackers russes. C'est-à-dire, quand je dis vraisemblablement, parce que c'est toujours dur de prouver, mais disons que la manière de faire ressemble beaucoup à celle qu'ont des groupes russes connus. Donc ça a été piraté vraisemblablement par des pirates russes. Le premier lien a été mis en ligne par une personnalité de l'extrême droite américaine, qu'on appelle l'alt-right, très connue, hein. Et puis, ensuite, ça a recirculé dans les milieux d'extrême droite français. Et nous, ce que l'on a pu voir, c'est que pendant deux jours, donc on avait plusieurs centaines de comptes de chaque côté de l'Atlantique qui s'activaient pour relayer cette idée, Macron leaks, dangereux, changez votre vote, parce que là, c'est très compromettant. Donc là, on voit vraiment le côté internationalisé de cet espace numérique, avec des entraides, en fait, entre des groupes politiques de pays différents, mais aux idéologies alignées.
Alors, vous expliquez bien que ce genre de campagne répond à des stratégies bien particulières. Il s'agit pas forcément de faire voter pour quelqu'un, mais aussi d'empêcher le vote pour.
Oui, alors effectivement, en fait, il y a... Ça c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui est de plus en plus courant, et ça a été très utilisé aux États-Unis, mais ça commence à venir aussi en France d'une certaine manière. C'est ce qu'on peut appeler la suppression des lecteurs. C'est-à-dire que une campagne traditionnelle, c'est vous voulez faire voter pour votre candidat. Donc vous mettez en avant ses qualités, son programme, et éventuellement vous critiquez évidemment le candidat opposé, mais vous essayez de faire une adhésion à votre candidat. Ce qui se passe en politique française maintenant de plus en plus, c'est que en fait on va voter contre. Alors on fait vote barrage, on fait Front Républicain, etc., etc. Et donc dans cette configuration-là, une des manières de gagner des voix, c'est juste que l'abstention soit plus forte chez votre opposant. Et donc, on va essayer de faire en sorte que les personnes susceptibles de voter pour le camp adverse ne s'expriment pas. Alors ça, par exemple, on l'a très bien vu en 2022. C'est que, donc, en 2022, on avait à nouveau Macron-Le Pen. Et donc, il y avait la gauche et notamment la France insoumise. Oui. Donc, qui devait se positionner. Et donc, et ce que l'on a vu, c'est que il y a toute une opération, notamment qui venait de la droite, et notamment la droite un peu alternative française, qui essayait de faire en sorte que la gauche, et en particulier la France insoumise, s'ils n'allaient pas voter Le Pen, au moins n'allaient pas voter Macron. Et donc, il y a eu plein de hashtags, notamment, c'était ni Macron ni Le Pen. Et quand on regarde où on diffusait ces hashtags, on voit très, très précisément que ce sont les groupes France Insoumise, sympathisants France Insoumise, qui étaient le plus collés, en fait, parce qu'il y a des porosités, avec les groupes numériques qui étaient extrême droite et droite alternative. Alors, il y a eu cette porosité, c'est ça qui est étonnant, on pourra en reparler. Et donc, on avait des messages qui étaient fabriqués à l'extrême droite, par exemple des montages avec les gilets jaunes, etc., et qui circulaient avec le hashtag de, ni Macron ni Le Pen dans les cercles de gauche.
Oui, ça c'est quelque chose de très surprenant là, que vous décrivez et qui en même temps relève d'une, d'une conception extrêmement, on va revenir là-dessus, polarisée du débat politique.
Oui.
C'est-à-dire que les... Alors, est-ce que le... les débats, ou les, enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de débats ? Du moins, est-ce que les tweets reflètent la polarisation du corps politique, du corps social, ou est-ce que c'est plutôt la polarisation à l'intérieur du tweet qui va entraîner justement cette... On a du mal à saisir les tenants et aboutissants.
Alors, ce qu'on observe parce que désormais c'est plus possible, parce que notamment Elon Musk a changé les règles sur Twitter, il a fermé Twitter, mais donc pendant 6 ans, on a eu la chance d'observer donc les débats politiques sur au niveau de la France, au niveau national. On avait entre 500 000 et 2 millions de messages par jour, ce qui fait pas mal. Hein, vous pouvez faire des choses intéressantes, justement, avec les mathématiques.
Sur Twitter. Hein.
Sur Twitter. Voilà. Et donc, on a pu comme ça faire des sortes de cartographies de l'espace politique. Hein, donc où en gros, dans ces espaces, on avait chaque point était un compte Twitter et il était réparti dans l'espace en fonction de ses orientations politiques. Et on a pu voir comment cet espace s'est déformé sur les 5 ans. Et on a pu observer une plus forte polarisation, au sens amplification de la présence des comptes situés aux extrêmes des spectres politiques, hein, que ce soit extrême gauche ou extrême droite. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup extrême droite, mais en tout cas une polarisation. Une montée, en fait, du caractère hostile des échanges. Ça, c'est une autre équipe qui a mesuré ça, mais... On peut essayer de faire une estimation hein, du caractère hostile d'un message en regardant s'il comporte des hostilités, des attaques, des expressions dénigrantes, etc. Donc on peut donner un espèce de score. Hein. Et ce que l'on voit, c'est que entre 2012 et 2021, donc en 9 ans, ce score-là est passé, alors que je ne dise pas de bêtises, mais... à peu près, l'ordre de grandeur, c'est de 38% de messages négatifs à 50% de messages négatifs sur l'ensemble des messages qui circulaient. Et donc ça vous montre aussi que les échanges sur un réseau social comme Twitter se sont polarisés au sens aussi d'échanges hostiles entre utilisateurs et pas vraiment de débats constructifs. Donc ça, on l'a aussi observé de manière très, très concrète.
Et on l'a vu au moment de l'épidémie, la pandémie Covid-19, où il y avait des échanges très, très vifs
tout à fait.
Et insultants, ouais. Qui ont conduit d'ailleurs à des procès en diffamation entre les tenants et les opposants à telle ou telle position vis-à-vis des vaccins, par exemple.
Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment observé également, c'est-à-dire que nativement, le paysage politique français est multipolaire. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a juste deux partis, en gros. Il y a plusieurs partis qui ont une certaine importance. Et en 2016, c'était à peu près quadripolaire. Donc il y avait le PS, la gauche modérée, la droite modérée, et après la gauche un peu plus à gauche, la droite un peu plus à droite, ou l'extrême droite, l'extrême gauche, avec des partis un peu plus petits, évidemment, autour. Mais en gros, on est quadripolaire ou à 5 pôles. Ce que l'on a vu, c'est que sur plus en plus de polémiques, typiquement les vaccins, et typiquement aussi l'islamo-gauchisme, le port du voile, etc., on a tendance, en fait, à réduire le débat à juste deux grandes positions qui sont antagonistes.
Ouais.
Et ce que l'on voit, c'est que sur ces thématiques-là, c'est là aussi où il peut y avoir de l'amplification, c'est-à-dire une intervention externe ou artificielle pour rendre le débat polarisé de cette manière-là. En fait, ça participe notamment à de stratégies de groupes extrémistes qui cherchent en fait à créer cette polarisation pour se faire le héros de l'un des pôles. On l'a vu aussi notamment avec l'immigration pendant les élections 2022. Et ça, on a l'impression que c'est devenu de plus en plus fréquent dans cet espace politique français sur donc le quinquennat Macron.
Alors, dans le livre, bon, on est à la radio, malheureusement, on peut pas montrer les images, mais il y a un cahier central dans lequel on a des infographies hein, que vous avez publiées, ce qui illustre ce que vous venez de nous expliquer, et on voit bien l'évolution. Effectivement, en 2016, on a un nuage qui est très étalé avec plusieurs pôles de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par tout ce marais un peu central. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on s'aperçoit en fait de la polarisation avec deux grands pôles, c'est ce que vous venez de vous dire, et les graphiques, là, sont... C'est pas des graphiques, en fait, ce sont des nuages de points, hein, finalement.
Oui, c'est une représentation.
Une représentation graphique qui montre bien comment cette... Et chaque point représente en fait un tweet ou
un compte,
et la façon dont ces comptes se dispersent et deviennent de plus en plus concentrés sur un des deux pôles. On peut voir d'ailleurs sur le site aussi, je crois, il y a des animations.
Tout à fait. Donc il y a un site compagnon au livre hein, qui s'appelle toxicdata.chavalares.org où les images et les visualisations du livre sont en grande définition, où il y a des vidéos. Et on voit effectivement cette réorganisation de l'espace politique qui est vraiment... c'est vraiment un petit peu comme si la tectonique des plaques, hein, c'est-à-dire qu'on a sur plusieurs mois, plusieurs années, des grandes masses politiques qui bougent et un paysage qui va changer de forme, qui avant était plus linéaire, un peu comme à l'Assemblée, où on allait de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le centre. Alors que maintenant, on a un grand bloc avec une circulation d'informations entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et puis le parti présidentiel assez isolé, et le LR et le PS qui sont assez fragmentés, on va dire, sur les bords de l'image. Pour le dire de manière imagée.
Vous donnez une illustration donc au moment de 2022 et autour du candidat qui n'était pas encore candidat, Éric Zemmour.
Oui.
Et en particulier, vous illustrez ça par... Alors, on sort un petit peu du réseau social. Vous l'illustrez par cette émission télévisée sur CNews.
Oui.
Face à la rue.
Oui, oui. Alors... Quand on fait comme ça une représentation cartographique de l'espace politique, juste pour que l'auditeur puisse s'imaginer, hein, c'est un peu comme une galaxie, sauf qu'au lieu d'avoir des étoiles, vous avez des comptes, donc c'est des personnes, et là où sont positionnés ces comptes représentent en gros leur positionnement idéologique, donc il y en a qui sont plus à gauche, plus à droite, etc. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez vous demander où circulent certains types de contenus. Et donc ça, dans le livre, je le fais à plusieurs endroits et à plusieurs époques, mais on a eu plusieurs campagnes de désinformation qui ont été documentées. Donc, par exemple, en 2017, Le Monde avait fait le projet Les Décodeurs qui avait recensé un certain nombre de désinformations. On a eu, vous citez le cas de Zemmour, donc effectivement, Zemmour avait fait beaucoup de coups tordus, notamment en complicité avec CNews. Donc là, vous évoquez le cas d'une séquence qui s'appelait « Face à la rue ». C'était une émission de Morandini où il était censé amener les candidats à la rencontre des Français. En toute transparence, évidemment. Et donc, évidemment, le premier invité de l'émission, c'était Zemmour, comme dans toutes les émissions de CNews politiques. Et Zemmour était censé aller à Drancy, rencontrer les gens de sa ville natale. Et là, à un moment donné, il croise une femme voilée avec qui il discute. Et en moins de 30 secondes, il lui fait enlever son voile. La convaincant d'enlever son voile. Et là, immédiatement, sur les réseaux sociaux...
Il enlève sa cravate en échange.
Lui, il enlève sa cravate en échange. Enfin, je ne détaille pas l'échange, mais voilà, il y a un petit peu un côté un peu polémique, véhément. Mais au final, donc, elle enlève son voile. Lui, il enlève sa cravate pour montrer qu'ils sont tous de bonne foi. Immédiatement, sur les réseaux sociaux, Zemmour est tourné en héros. bureau en disant « Regardez, il arrive à faire enlever le voile aux femmes, il libère les femmes, etc. » Et en fait, on apprend assez vite que tout ça s'était monté, que la femme, elle venait en taxi par la production de 40 km de là, exprès pour rencontrer Zemmour, et qu'elle ne l'a pas du tout rencontré à un coin de rue comme ça.
Et c'est une ancienne employée.
Et c'est une ancienne employée de Bolloré. Enfin bon, il y avait tout qui n'allait pas. Et donc des coups montés comme ça, il y en a plein. D'ailleurs, ça, c'est vraiment une technique qu'on a vue aussi ailleurs. On l'a vu aussi aux États-Unis sur d'autres cas. C'est-à-dire de créer un événement réel, dans la vie réelle, qui est monté de toutes pièces, mais où, comme il est préparé, on a déjà aussi préparé le contenu sur les réseaux sociaux, de manière à faire tourner de manière très très rapide un certain narratif.
Saturer l'espace.
Mmh. Et le moment où on va découvrir qu'en fait tout ça c'est un coup monté, on le tourne en dérision. Mmh. Et un jour après, mais en fait on a déjà saturé l'espace et après on le retourne en dérision. Et
c'est la loi de Brandolini qui va s'appliquer.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de démonter une fausse information que de la créer. Et donc comme ça on génère beaucoup plus de fausses informations que de vraies informations. D'ailleurs ça c'est une théorie qui a été, c'est une approche qui a été théorisée par Steve Bannon, hein, donc qui était le conseiller de Trump pendant la campagne de 2016, conseiller communication numérique, donc personne à l'extrême droite, qui a d'ailleurs été viré de l'équipe de Trump après parce qu'il est trop extrême. Enfin, sa stratégie, c'était de dire nos vrais ennemis, ce ne sont pas les démocrates, ce sont les journalistes, et pour lutter contre eux, il faut inonder la zone de merde, c'est-à-dire balancer des fausses informations le plus possible, de manière à ce que tout le monde se fatigue à essayer de vérifier tout ça, et de créer la confusion. Donc après, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Donc ça, c'est vraiment une stratégie théorisée.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Pense à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. C'est de moi dont on va parler. Où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi je m'en vais marcher. Naïve comme jamais. Loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses. Je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon?
Toujours Radio Libertaire, la voix du Némètre de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. On vient d'entendre Angèle qui interprétait La Thune. Nous sommes en compagnie de David Chavalarias, Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions. Un livre paru en mars 2022 et réédité en collection Poche chez Flammarion dans la collection Champ Actuel. Dans une première partie de l'émission, nous avons mis un petit peu en place le décor en rappelant quelques faits autour des élections et autour de campagnes menées sur les réseaux sociaux. Mais à l'origine, ces réseaux sociaux, ils n'étaient pas... Enfin, si on en croit Mark Zuckerberg, par exemple, qui présente Facebook comme étant... alors, je n'ai plus les termes exacts, mais c'est vraiment...
Se connecter aux autres.
Voilà, c'est se connecter. C'est philanthropique, en fait. C'est une œuvre philanthropique. Mais pourquoi ces réseaux sont-ils devenus aussi toxiques ? Qu'est-ce qui a fait que... À l'origine, des instruments qui sont faits pour communiquer, échanger l'information, se rapprocher les uns des autres. Grâce à Facebook, on peut communiquer avec sa famille qui est en Australie ou échanger avec ses amis de la fac. Pourquoi c'est devenu toxique ? Pourquoi ces effets se sont-ils créés ?
Alors, il y a vraiment de nombreuses raisons à cela. Et c'est vraiment, en gros, la structure du livre. Le livre qui s'appelle Toxic Data, en fait, parle... surtout des algorithmes et des environnements numériques toxiques qui gèrent toutes ces données, évidemment. Mais donc, l'idée, c'est de montrer comment différentes couches s'accumulent pour en faire plier la démocratie et toxifier les échanges. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Mais la première, c'est que il faut bien comprendre que ces plateformes sur lesquelles on échange, qui sont gratuites, hein, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat, etc., Instagram.
On reviendra, si vous voulez bien, après, sur la gratuité.
Bien sûr, oui. Hein. Et donc, ces plateformes sont des plateformes commerciales. Et donc, ce qu'elles cherchent, c'est à faire de l'argent. Et pendant d'ailleurs très longtemps, elles n'ont pas fait de l'argent. Hein. Facebook a mis du temps à trouver un modèle économique, Twitter aussi. Elles font de l'argent... évidemment pas via la publicité. Donc l'objectif, c'est de vous vendre de la publicité sur les plateformes, donc notamment de vous afficher des publicités que vous cliquez dessus, ou de vendre vos données de profil à des publicitaires qui vont vous cibler sur d'autres médias. Et donc, pour faire ça, la question c'est comment je vais optimiser mes ventes publicitaires. Et donc, les réseaux sociaux, progressivement, ont mis en place différentes choses. Un des grands changements, par exemple, ça a été la mise en place d'un fil d'actualité. Par exemple, Facebook, avant, chacun allait sur la page de son copain pour voir ce que son copain avait dit. À partir de 2016, Facebook a dit, en fait, on va vous simplifier la vie, on va mettre tout ce qui peut vous intéresser au même endroit, et on va vous faire arriver sur une même page l'ensemble des messages.
Et ce qui est plutôt pratique.
Ce qui est plutôt pratique. Mais alors, c'est là où ça se complique, parce que par exemple, sur Facebook, en moyenne, on a un peu plus de 300 amis. Sur Twitter, pareil, c'est même un peu plus. Et sur l'ensemble des réseaux sociaux, en général, on a en moyenne plusieurs centaines d'amis. Vous ne pouvez pas lire ce que produisent ces quelques centaines d'amis tous les jours. C'est impossible, sinon vous passerez tout votre temps. Mais même si, quand même, vous passeriez tout votre temps. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que en moyenne, toujours... on vous montre à peu près 20% de ce que produit votre environnement social. Et donc la question à se poser, c'est comment sont choisis ces 20%? Alors, on ne va pas se dire qu'est-ce qui est caché dans les 80%, mais vraiment ce qu'on va montrer dans ces 20%. Et donc, les plateformes ont affiné pour trouver les 20% qui sont le plus propices à vous montrer de la publicité. Et donc, en 2018, par exemple, il y a eu un changement majeur, c'est-à-dire que Facebook, avant, essayait d'optimiser le temps passé sur la plateforme. Ils essayaient de faire en sorte que vous passiez le plus de temps. Donc, la métrique, hein, c'était est-ce que le contenu vous fait passer beaucoup de temps sur la plateforme? Et donc, on vous mettait beaucoup de ces contenus-là dans les 20%. En 2018, ils ont changé leur doctrine. Ils ont dit non, en fait, on va favoriser ce qu'ils appellent l'engagement, c'est-à-dire le fait qu'un contenu va générer beaucoup de partages, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. C'est-à-dire, on est engagé avec le contenu. Et donc, ils l'ont annoncé vraiment en grande pompe comme une amélioration, sauf que le problème, c'est que donc, la plateforme a cherché à apprendre quels sont les contenus parmi tout ce qui est produit autour de vous qui vont provoquer le plus d'engagement. Quels sont ces contenus? Alors, il y a plusieurs, et c'est là qu'interviennent des biais cognitives, c'est-à-dire des distorsions de la raison qu'on a tous, mais qui vont faire que certains contenus vont être favorisés par rapport à d'autres. Alors, j'en donne plusieurs exemples dans le livre, mais j'en donnais un qui est particulièrement frappant, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est-à-dire que toute chose par ailleurs, quand vous avez deux informations et qu'il y en a une qui comporte une dose de danger, par exemple, une information vous dit « on va autoriser le vaccin pour les enfants à partir de 5 ans », il est sûr, il n'y a aucun problème, il est efficace à 90%. Et l'autre information vous dit, attention, les médecins vous mentent, en fait, le vaccin, il va être nuisible par vos enfants, il va vous les rendre stériles, etc. Pour avoir le détail, il va falloir que vous cliquiez. En général, sur quel message vous avez cliqué? Eh bien, surtout si vous êtes parent, vous avez cliqué sur le message qui dit qu'il y a un danger pour les enfants. Parce que vous essayez de vous faire votre idée et de savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Le problème, donc ça c'est ce qu'on appelle le biais de négativité, toute chose égale par ailleurs, vous allez essayer de vous renseigner là où il peut y avoir un danger pour essayer de l'anticiper. Le problème, c'est que les plateformes, elles observent tous vos mouvements. Elles observent même la durée de lecture d'une vidéo, par exemple. Elles savent exactement où est-ce que vous êtes arrêté, etc. Donc elles observent tout ça, et à partir de ces observations, elles vont essayer de sélectionner les contenus qui vont faire le plus d'engagement. Et donc, par définition, ceux qui font le plus d'engagement, c'est les contenus les plus négatifs. Donc, elles vont renforcer la présence de contenus négatifs dans votre fil d'actualité, donc parmi les 20% sélectionnés, de manière à ce que ça soit ceux qui sont avec la plus haute probabilité, génèrent de l'engagement et donc vous font rester sur la plateforme. Et ce qu'on a pu mesurer, par exemple, sur Twitter, donc ça, c'est une mesure qu'on a fait à l'Institut du Système Complexe avec Paul Bouchou qui travaille avec moi, c'est que si vous comparez ce à quoi vous abonnez sur une plateforme comme Twitter, donc ça c'est des mesures sur Twitter, sur X quoi, si vous comparez ce à quoi vous êtes abonné sur X et ce qu'on vous montre également, c'est-à-dire une sous-partie de ce à quoi vous êtes abonné, puisqu'on ne peut pas tout vous montrer, et bien dans cette sous-partie, la surreprésentation des contenus toxiques, c'est-à-dire obscènes, avec harcèlement, dénigrants, etc., c'est plus 50%. C'est-à-dire que votre perception de votre environnement social, ce à qui vous êtes abonné, est déformé vers la toxicité. Donc ça, c'est un des effets une des raisons pour lesquelles les réseaux sociaux se sont de plus en plus polarisés et toxiques, c'est que par design, par conception, en fait, ils favorisent les messages toxiques.
Mais quel est le but de Twitter ou de Facebook en organisant la présentation des messages?
Alors,
qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est une politique qui est voulue ou est-ce que c'est simplement la tendance humaine? C'est obésien un petit peu comme.
Disons que c'est un effet systémique des choix de la plateforme.
D'accord. Enfin,
pour la partie qu'on a pu mesurer. C'est-à-dire que Facebook ne cherche pas à vous montrer des messages anxiogènes, il cherche à vous faire rester sur la plateforme. Et il donne des critères tout à fait générique à ces algorithmes en disant « Trouve-moi les messages qui les font le plus rester sur la plateforme ». Il se trouve que les messages qui vous font le plus rester sur une plateforme, ce sont ce type de messages. En moyenne, il y a évidemment d'autres messages, mais ils sont surreprésentés. Par exemple, autre exemple qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, le Washington Post n'a jamais vendu autant d'exemplaires que pendant la présidence de Trump. Parce qu'il y avait tellement de scandales tout le temps qu'il fallait se tenir informé, de savoir c'était quoi le problème, etc. Donc en fait, si vous voulez bien, le désir qu'on a de s'informer est presque proportionnel au besoin qu'on a de savoir qu'est-ce qui pourrait nous poser problème. Et donc si vous êtes dans un environnement où tout va bien, bon, a priori, bah, vous pouvez faire autre chose que d'être sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir des amis, prendre des pots, faire de la musique, voilà.
Rester dans la vraie vie, quoi.
Voilà, rester dans la vraie vie. Donc,
écouter Radio Libertaire.
Mais si du jour au lendemain, il y a une grande pandémie et que toutes les heures, on vous annonce la progression de la pandémie, vous êtes accroché à votre télé, accroché à vos réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment je porte le masque, etc. Donc on voit bien que le côté anxiogène entretient votre présence et vous tient indique. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est polarisé. L'autre raison, parmi d'autres, hein, mais une autre raison importante, c'est que les réseaux sociaux ont été instrumentalisés par notamment des États dictatures. Donc on peut penser à la Chine, l'Iran, la Russie, la Turquie, qui ont bien identifié le fait que ces espaces d'échange démocratique qui était assez peu modéré au final, hein, puisque par définition, la liberté d'expression était un bon vecteur pour à la fois promouvoir leurs idées. Hein, beaucoup de gens maintenant sur X vantent Poutine, par exemple, mais aussi promouvoir de la désorganisation. en créant de la polarisation et de la polémique. Et ça, par exemple, ça a été documenté. Alors, on sait que, ça je le détaille dans le livre, mais on sait que c'est une stratégie, par exemple, d'organismes comme l'IRA, l'agence de recherche Internet, qui est une agence du Kremlin, numérique, hein, qui a plusieurs centaines de personnes qui, en permanence, sont sur le réseau et essaient de faire monter les polémiques. Donc, c'est une stratégie assumée de l'IRA d'essayer d'amplifier les différences au sein des démocraties entre les différents groupes sociaux. Et ça apparaît dans, ça a par exemple été documenté pendant la campagne de Trump, où il y a eu une enquête pour savoir s'il y avait eu ingérence de la Russie. Cette ingérence est avérée. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la technique qu'ils avaient utilisée. Donc, par exemple, ils ont créé plein de fausses pages Facebook, qui étaient, par exemple, un exemple assez prototypique, c'est ils ont créé une page Facebook pour, en gros, développer le sentiment patriotique, donc à destination des patriotes, et une autre pour développer le sentiment d'appartenance et communautaire des musulmans aux États-Unis. Et donc, on avait deux pages Facebook qui ont pendant des mois drainé, en fait, des adhérents. Et ces deux pages Facebook, à un moment donné, au moment de l'inauguration d'une bibliothèque islamique, ont chacune annoncé une manifestation devant cette bibliothèque, l'une pour protester contre la bibliothèque, l'autre pour féliciter et se satisfaire de la création de ce centre culturel. Et donc on voit bien que, et alors que les administrateurs de ces deux pages n'étaient pas du tout aux États-Unis, ils étaient à Saint-Pétersbourg. Et donc on voit bien que sur cet exemple-là, ils ont cherché à attiser en fait les conflits communautaires entre d'un côté les Américains dits de souche et de l'autre côté les Américains qui auraient, d'ailleurs qui pourraient être de souche, mais qui auraient une croyance religieuse musulmane. Et donc, et ce qu'on a vu en analysant la stratégie, par exemple, de publicité et ces pages-là, c'est qu'ils avaient créé, en fait, ils avaient ciblé pas seulement les musulmans et les patriotes, mais ils avaient aussi ciblé les mouvements LGBT, les mouvements noirs, les mouvements jésuites, etc. Et à chaque fois, donc, dans la stratégie générale, c'est on va renforcer les identités des groupes, on va créer des communautés fortes qui auront l'impression d'avoir moins à partager avec le reste de la société qu'entre elles. Et même, idéalement, l'impression d'être victime, en fait, du reste de la société, de manière à ce que ça se passe mal. Et ça, c'est une stratégie assumée. Ça a été donc déployé sur les réseaux sociaux numériques par la Russie, mais aussi par la Chine. Récemment, la Chine, il y a plusieurs milliers de comptes Facebook qui ont été démantelés de cette manière-là, là, il y a moins d'un mois. Et ça, ça a été aussi un facteur de polarisation des espaces numériques en ligne.
Alors, il y a plusieurs conséquences à ce genre de situation. Tout d'abord, pour les individus et pour les groupes et les communautés, c'est ce que vous appelez deux termes sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête un moment, que vous nous les expliquiez. C'est la bulle de filtre et la chambre d'écho.
Oui, alors donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc dans les espaces numériques, d'ailleurs dans la vraie vie aussi, mais surtout dans les espaces numériques, l'information ne circule pas de manière homogène entre les comptes, un petit peu n'importe comment. L'information est contrainte par à la fois les connexions que vous vous êtes faites, puisque vous vous abonnez à un certain nombre de personnes, et puis par l'algorithme dont on a parlé tout à l'heure, qui va choisir de sélectionner une sous-partie de l'information. Et donc là, il y a plusieurs effets structurants qui font qu'au final, l'information, les échanges vont se structurer en gros en ce qu'on appelle donc chambre d'écho. Chambre d'écho, c'est en gros des comptes qui vont se ressembler du point de vue de leur goût, de leurs intérêts, et qui vont échanger beaucoup plus entre eux qu'avec l'extérieur. Alors, on trouve ce phénomène aussi dans la vraie vie. Hein. Les groupes de copains, en général, c'est qu'ils ont des choses à partager.
Vous appelez ça l'homophilie.
Ça s'appelle, en sociologie, ça s'appelle l'homophilie, le fait de se connecter à des gens qui nous ressemblent, et donc qui partagent les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts sportifs,
c'est
etc.
C'est un penchant naturel et
ça,
normal.
C'est un penchant tout à fait naturel, qui va être amplifié, encore une fois, algorithmiquement en ligne, parce que, d'une part, c'est assez facile de trouver des gens qui vous ressemblent, puisqu'on va maintenant chercher, on cherche qui aime le golf, par exemple, et puis on va trouver toutes les personnes qui aiment le golf.
C'est les sites de rencontres en ligne qui font ça.
Il y a les sites de rencontres, mais même, par exemple, si vous êtes sur Twitter, vous cherchez le hashtag, n'importe quel hashtag, sur une musique classique, par exemple, vous allez trouver toutes les gens qui s'intéressent à la musique classique. Ils n'ont même pas besoin de créer maintenant un club. C'est juste vous trouvez tous ceux qui s'expriment sur ce sujet-là. Et puis, par-dessus ça, il y a aussi, comme vous avez certainement remarqué, les suggestions du réseau. Hein, on vous dit, vous devriez vous connecter à un tel, un tel, un tel, vous avez deux connexions en commun, trois connexions en commun, etc. Et ces suggestions vont renforcer cette espèce chambre d'écho, c'est-à-dire le fait de se connecter au même. Donc ça, c'est l'effet chambre d'écho. En gros, on renforce l'entre-soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être exposé à des vues adverses, mais si on est exposé à des vues adverses, souvent, c'est en gros à dessein d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a détecté que si on vous exposait à ça, ça va générer de l'engagement, par exemple. Et donc, c'est plutôt de l'interaction conflictuelle. Et après, il y a le côté bulle de filtre. Donc, bulle de filtre, c'est les algorithmes qui vont identifier ce qui vous plaît et qui donc vont vous montrer des contenus qui ressemblent à ce que vous avez déjà cherché avant, par exemple. Alors ça, on le trouve sur les réseaux sociaux, mais on le retrouve aussi sur Amazon. Hein, quand vous cherchez un livre, on va vous montrer un livre qui ressemble à ce même livre. Et en fait, au fur et j'ai un collègue, par exemple, qui me disait, moi, j'aime les films coréens. Et ben sur Netflix, j'ai eu le malheur d'en regarder trois. Et ben non, j'ai que des films coréens en suggestion. J'arrive pas à m'en sortir. Donc ça, c'est l'effet bulle de filtre, c'est-à-dire que on va vous enfermer dans ce que vous recherchez ou ce que recherchent les gens qui vous ressemblent. Et du coup, votre univers va se simplifier et ressembler en fait à la catégorie en gros qui vous a été attribuée. Par exemple, sur Twitter, quand l'algorithme était sorti, on avait vu qu'à peu près Twitter divisait sa population en 135 000 groupes différents et au sein de chaque groupe, les recommandations sont plus ou moins homogènes. Il y en a qui ont que des recommandations sur l'intelligence artificielle, d'autres qui vont avoir que des recommandations sur l'Europe, etc., etc. Et donc, ça, c'est des facteurs qui vont à la fois fragmenter l'espace public, puisqu'on va enfermer les utilisateurs dans des cases, et à homogénéiser à l'intérieur d'une même case, pour qu'en gros, les utilisateurs voient grosso modo la même chose, c'est, l'information est homogène.
Lorsqu'on est dans la vraie vie, in real life, comme on doit dire, on dit maintenant, on sait que dans nos interactions sociales, il y a des sujets qu'on aborde peu ou pas avec certaines personnes. Lorsque je suis invité chez la tante Ursule, je sais que je ne dois pas aborder, par exemple, l'anarchie. Parce que je sais que par rapport à ça, on risque de se retrouver en désaccord, mais je veux passer un moment sympathique avec tante Ursule, et donc on peut parler d'un tas d'autres choses, de la météo ou du dernier film passé sur TF1, mais voilà. Comment ça se passe dans la vie des réseaux ?
Alors, justement, c'est une très bonne question, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc les réseaux et les infrastructures numériques vous recommandent des contenus ou des personnes en fonction de ce qu'elles pensent qui va vous intéresser. Et pour ça, elles font des calculs plus ou moins savants de similarité. Et effectivement, en fait, ces calculs ne prennent pas du tout en compte le contexte social. Et par exemple, pendant la pandémie, vous avez peut-être pu remarquer que tout à coup, on vous recommande plein d'informations ou de désinformations sur le vaccin, alors que ce n'est pas du tout votre centre d'intérêt, mais simplement parce que votre oncle, votre tante, votre frère, etc., à un moment donné, a commencé à en parler beaucoup. Et comme vous êtes connecté à lui, on s'est dit, peut-être que lui, David aussi, devrait recevoir la même chose. Et il y a eu des expériences, d'ailleurs, que je détaille dans le livre, où on montre ce phénomène sur Facebook. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'en fait, ça veut dire que ça brouille les compartiments que nous-mêmes, socialement, on fait, et qui, en fait, sont là pour, justement, arriver à pouvoir discuter avec des personnes sur des sujets, alors qu'on n'est pas d'accord sur d'autres sujets. Et donc, les réseaux cassent tout ça, et vous forcent, en gros, à vous aligner. Ça peut mener soit à être d'une certaine manière entre guillemets contaminé par des idées auxquelles vous n'auriez pas été exposé et auxquelles vous ne souhaitiez pas être exposé, mais vous êtes tellement exposé que finalement ça vous influence, soit à casser des liens sociaux parce que vous dites à un tel, j'en ai un petit peu marre, qui me parle tout le temps des vaccins, etc., je vais juste me désabonner et comme ça. Et donc ça reconfigure les réseaux sociaux. Mais pour terminer là-dessus, et sur un autre exemple qui a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais qui est très intéressant, il y a quelques semaines, même quelques jours, Paul Bouchot, qui travaille à l'Institut du système complexe, a fait une étude sur Amazon. Et il a montré, par exemple, donc Amazon, même quand vous n'êtes pas connecté, vous regardez un bouquin, elle va vous suggérer 3 autres bouquins. Et donc, on peut regarder quels sont les livres qui sont suggérés à partir d'un livre sur le climat, à partir d'un livre sur les vaccins, à partir d'un livre sur la politique. Et comme ça, on peut tracer, encore une fois, la géographie des proximités entre sujets. Et ce qu'il a montré, et ce qui est très intéressant, c'est que autant il y a des espèces de bulles de filtre donc, sur certains sujets. Par exemple, si vous regardez des choses LGBT, vous êtes recommandé des choses LGBT. Si vous êtes travaillez sur le GIEC, vous êtes recommandé des choses sur le GIEC. Par contre, dès que vous êtes sur un livre à tendance un peu complotiste, typiquement les anti-vaccins, on va vous recommander d'autres théories du complot, par exemple le World Trade Center ou le climat, etc. Et donc, vous avez un algorithme de recommandation qui va diffuser, décompartimenter, en fait, des choses qui devraient être décompartimentées d'une certaine manière, parce qu'on ne s'intéresse pas, si on s'intéresse au climat, on ne va pas s'intéresser typiquement au vaccin, mais si on s'intéresse au climat d'une certaine manière, alors on va vous faire vous intéresser au vaccin de la même manière, et là, en l'occurrence, de manière complotiste.
Alors, un autre effet toxique, délétère, mais cette fois au niveau social, et vous l'illustrez, j'ai appris ça en lisant votre livre, les sondages montrent qu'aux États-Unis, les gens sont prêts à une séparation entre démocrates et républicains, une séparation physique.
Oui, il y a un institut indépendant qui s'appelle le Pew Research Center qui fait souvent des études comme ça, de savoir quel est le degré de polarisation entre les Américains. Bon, une des questions, c'est est-ce que vous accepteriez que votre gendre se marie avec... que votre gendre soit d'une opinion politique différente de la vôtre. Donc, c'est des questions comme ça qui permettent de voir à quel point vous seriez tolérant à vivre avec le bord politique d'en face. Et il y a aussi cette question, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire deux États-Unis, c'est-à-dire que avec le traumatisme Trump, la prise du Capitole, qui a quand même soulevé beaucoup beaucoup de problèmes, il y a eu une question qui était est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire tout simplement deux États fédéraux, mettre les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. Et ce qui est vraiment très stupéfiant, c'est que un an après donc la prise du Capitole, plusieurs milliers d'Américains étaient venus en disant l'élection nous a été volée, et c'était partagé sur les réseaux sociaux par des millions d'Américains. Hein, ce slogan « On nous a volé l'élection ». Et donc, un an après, donc on pourrait penser que la température aurait pu un peu redescendre, que les gens seraient revenus à la raison, eh bien, vous avez plus de la moitié des républicains et plus de 40% des démocrates qui étaient d'accord ou tout à fait d'accord avec l'idée que ça serait bien de faire deux États-Unis. Et ça, je trouve ça très inquiétant, parce que quand vous avez un pays où vous pensez qu'en gros, il faut faire séparation, c'est qu'en fait, vous n'avez plus rien à dire avec le camp d'en face et qu'il n'y a plus du tout de terrain de débat. Et ils ont pu mesurer justement que donc, cette polarisation avait augmenté au cours des années jusqu'à arriver à ce résultat-là.
Oui, ce que vous appelez la décohésion sociale.
C'est ça, décohésion sociale, pour moi, c'est vraiment l'idée que non seulement on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais en fait, il n'y a plus aucun sujet sur lequel on peut se mettre d'accord. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut plus débattre de rien, c'est-à-dire même avec votre voisin qui n'a pas forcément les mêmes conceptions de ce qu'il faut faire pour le réchauffement climatique, peut-être que sur l'immigration, vous ne pouvez pas en discuter, ou sur l'école, etc. Mais à un moment donné, on peut être d'accord sur rien, et s'il y a une sorte d'alignement, et c'est aux États-Unis par exemple, il est assez fort, c'est-à-dire qu'en général, quand on est républicain, on est aussi climato-sceptique, on est aussi anti-vax, et quand on est démocrate...
Et on meurt plus du Covid.
Et on meurt plus du Covid, et quand on est démocrate, on est pour le port du masque, et on est... voilà. Donc quand vous avez un espèce d'alignement comme ça, le risque, c'est qu'on arrive justement à un moment où chacun dit, en fait, ça serait mieux qu'on ne vive pas dans le pays avec le même pays qu'avec le camp d'en face.
Est-ce que vous avez remarqué ces tendances en France ?
Disons qu'en France, on voit quand même qu'il y a eu une très forte poussée anti-vax, anti-masque, anti-dictature sanitaire, pour avoir un chapeau un peu plus global, à l'extrême droite. Et on a pu mesurer que c'était ces mêmes comptes qui aussi faisait du climato-scepticisme là, depuis un an sur le réseau. Donc on a pu mesurer d'une certaine manière cet alignement sur un sous-ensemble, ça ne veut pas dire qu'il est global, hein, mais ce qu'on a vu, c'est que sur les militants sur X qui défendaient le côté anti-dictature sanitaire, donc anti-vax dans ce sens-là, et ceux qui défendaient en gros des thèses climato-sceptiques, il y a un alignement quasiment parfait, qui est aussi un alignement avec des positions idéologiques qu'on pourrait qualifier donc de nouvelle droite, d'extrême droite, droite alternative, l'équivalent de l'alt-right américaine.
Vous faites un constat quand même assez alarmiste, mais bon, il faut s'alarmer aussi, hein,
oui, bien sûr, oui.
Sur le devenir des démocraties en Europe, avec la montée des populismes, et pour vous, la bascule, elle est là, quoi.
Oui, bah c'est vraiment une des choses qui m'a poussé à écrire ce livre rapidement, parce que vraiment l'hypothèse centrale du livre, c'est que on ne peut pas garder à la fois le modèle économique des grandes plateformes tel qu'il est là et les démocraties. Grandes plateformes, hein, c'est par exemple, faut bien voir que par exemple Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Hein, il y a des plateformes qui ont des pénétrations très très importantes. Et comme on en a parlé, en fait, de manière par design presque, ces plateformes introduisent des vulnérabilités dans la qualité du débat, dans la cohésion démocratique, elles mènent vers une polarisation, plus d'hostilité, eh bien, ça mène aussi vers des déstabilisations électorales. Et évidemment, il ne faut pas tout attribuer aux réseaux sociaux, il y a plein d'autres causes, on vit aussi des crises économiques, il y a la crise sanitaire, donc il n'y a pas...
Écologique.
Enfin, il y a plein de crises différentes, hein, mais justement, dans ce contexte de crise, on ne peut pas se permettre d'avoir des supports d'échange d'informations et d'idées qui soient aussi défaillants. Il faut avoir des choses de qualité qui arrivent à filtrer les contenus intéressants, à nous amener vers une discussion constructive plutôt que vers de l'hostilité, etc. Or, ce que l'on a actuellement est complètement défaillant et nous mène vers la polarisation et de l'hostilité.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Ça consomme, somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
Oui, toujours Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. On vient d'entendre Stromae qui chantait Carmen, une interprétation tout à fait personnelle de Carmen par Stromae. Nous sommes toujours avec David Chavalarias pour Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions. C'est paru en poche dans la collection Champ Actuel des éditions Flammarion. Juste avant la pause, vous nous disiez donc que les démocraties sont incompatibles, enfin une certaine forme de ce qu'on connaît nous comme démocratie actuelle. Bon, même si nous anarchistes libertaires, on a aussi des remarques et des critiques à faire à cette forme de démocratie, mais en tout cas telles qu'elles existent aujourd'hui, elles semblent de plus en plus incompatibles avec la façon dont les réseaux sociaux sont organisés, la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent et dysfonctionnent, et la façon et les conséquences concrètes qu'on peut avoir quel que soit effectivement notre sauf à moins d'être support de l'alt-right, la prise du Capitole à Washington en janvier 2021 avait de quoi faire froid dans le dos quand même. Et puis ce qui s'est passé aussi à Brasilia peu de temps après, la réplique brésilienne, et puis toutes les tendances qu'on voit autour de nous ne peuvent que nous inquiéter. Et nous faire redouter un basculement vers des régimes totalitaires ou des régimes illibéraux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une belle trouvaille, ça, d'ailleurs, démocratie libérale. C'est une espèce d'oxymore. Oui. Voilà. Et puis on a vu aussi ces dernières années en France, quand même, une tendance au durcissement vis-à-vis des mouvements sociaux, la crise des gilets jaunes, la façon dont les manifestations des retraites ont été aussi durement contre les retraites ont été durement réprimées, et aussi la tendance de plus en plus marquée par les gouvernements successifs à de pencher de plus en plus à droite sur les questions sociales, économiques, sociétales même. Je voudrais quand même qu'on aborde avec vous les raisons profondes qui font que ces réseaux sociaux sont devenus incompatibles avec la démocratie.
Alors, on a mentionné tout à l'heure plusieurs raisons qui sont tout à fait, moi je pense, importantes. Hein, la gouvernance algorithmique, la manipulation, etc. Mais effectivement, il y a une cause que j'aborde sur tout un chapitre dans le livre et qui est important d'essayer de comprendre. Quand je dis incompatible avec les démocraties, par démocratie, j'entends en gros un régime politique où les citoyens ont une certaine liberté pour échanger, essayer de trouver des terrains d'entente. Évidemment, il y a toujours des désaccords et donc il y a une diversité politique, mais en tout cas, il y a...
Le dissensus doit être présent dans une démocratie.
Le dissensus est important, mais on peut quand même avoir un dialogue et on évite, en tout cas, d'avoir juste un affrontement direct ou une situation, comme vous le disiez tout à l'heure, où un gouvernement estime que la seule manière de réagir, c'est de réagir par la force totale, etc. Donc, une des choses qui nous empêche donc d'avoir ce fonctionnement démocratique, c'est justement le fait que on a une certaine forme de polarisation de la société ou alors une forme de mouvement de masse qui irait amènerait les citoyens à faire des actions qu'ils ne souhaiteraient pas a priori nécessairement, mais ils sont entraînés dans une sorte de courant. Alors, il y a des raisons profondes en fait qui lient les réseaux sociaux tels qu'ils sont conçus et le fait que les citoyens dans leur action collective peuvent se sentir un petit peu dépossédés du résultat de cette action positive. Et ça a été abordé par un des théoriciens de la seconde cybernétique, donc Heinz von Förster, qui expliquait que, en gros, et c'est un théorème qui après a été développé notamment et rapporté par Jean-Pierre Dupuis, qui expliquait la chose suivante. Il disait, en gros, si vous avez un système, donc par exemple des citoyens qui vont vivre leur vie, mais interagir entre eux, s'influencer dans leurs opinions. Donc un système, c'est quoi? C'est des un grand nombre d'entités qui vont interagir. Là, on a les citoyens. Donc, si vous avez un système où les composants sont fortement corrélés, par exemple, les citoyens vont fortement s'influencer les uns les autres, dans leur mode de vote, par exemple. Bon, ce qu'il dit, en substance, c'est plus les parties du système s'influencent les uns les autres de manière forte, plus le comportement global du système va sembler échapper à leur maîtrise. Alors, pour prendre un exemple, par exemple, la panique. Hein, vous êtes dans le RER, il y a une alerte au feu dans un coin, bah, tout le monde va courir, et en fait, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de courir dans le sens où tout le monde va, et la direction choisie, en fait, elle a été choisie au tout début par peut-être une ou deux personnes qui ont choisi d'aller dans une direction, et après, tout le monde va dans la même direction. Donc là, vous êtes très corrélé aux autres, puisque vous n'avez pas le choix, tout simplement, d'aller à contre-courant, sinon vous vous faites écraser. Donc là, on a un exemple où on a un système qui tout à coup va avoir un comportement global, donc la foule qui se déplace dans une direction donnée, et même si chacun participe à ce comportement global, personne n'a l'impression de l'avoir vraiment choisi, le subit plutôt. Et donc ce que dit cette approche donc de Von Förster, qui est devenu un théorème, c'est que plus dans une société les comportements des uns et des autres sont liés entre eux, il appelle ça rigide ou trivial, plus le résultat de ces comportements, par exemple le fait qu'on va voter pour une mesure, par exemple pour le Brexit ou contre le Brexit, etc. Donc plus le résultat de ce comportement va sembler in fine échapper à la maîtrise des individus. On va avoir l'impression que le Brexit est inévitable ou l'élection de un tel est inévitable et que voilà. Donc plus c'est rigide, plus vous influencez les uns les autres, plus le comportement émergent semble inévitable. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui peut être un peu paradoxal, plus donc il y a cette forme de rigidité, plus l'issue en fait du comportement collectif, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller dans le RER à gauche ou à droite, est-ce qu'on va voter Brexit ou non Brexit, donc plus le comportement global est imprédictible. C'est-à-dire que en gros, avec la même population, on aurait pu aller à droite ou à gauche. On aurait pu voter Brexit ou au contraire choisir de rester dans l'Europe. Et donc ça, c'est le côté imprévisible. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre en fait des premiers moments. Et ça, on le voit bien dans une foule, en fait. Les premiers moments, les premières personnes qui commencent à courir dans une direction, c'est eux qui vont entraîner la foule dans une certaine direction. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mécanisme-là, il marche aussi au niveau des opinions publiques. Et quand on regarde qu'est-ce que font les réseaux sociaux, eh bien, intrinsèquement, ce que font les réseaux sociaux, c'est qu'ils renforcent cette interdépendance entre les personnes. Ils renforcent le couplage. Il y a partout des informations sociales qui vous disent les personnes qui sont venues dans cette ville, ils sont allés dans tel hôtel, et c'est là qu'ils ont mis 5 étoiles. Les personnes qui ont vu tel article, ils ont tous partagé celui-ci et pas celui-là d'autre. Donc en fait, vous avez de manière intrinsèque sur ces réseaux sociaux de plus en plus de marqueurs de ce qu'ont fait les autres et de ce qu'ont apprécié les autres. Et ça, c'est des éléments, qui renforcent en fait la dépendance de votre décision par rapport à la décision des autres. Donc on est tout à fait dans le cas de Von Förster, c'est-à-dire que la couche de recommandations que font les réseaux sociaux en ligne, en vous mettant des likes, des étoiles, etc., renforce la rigidité. Et donc si on applique ce théorème de Von Förster, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que d'un côté, on va avoir des mouvements d'opinion massifs, hein, tout le monde va être pour le Brexit, tout le monde va croire qu'on leur avait volé l'élection, comme aux États-Unis, il y a quand même 80 millions qui ont cru à cette fausse information, qui est quand même une fausse information, donc c'est un mouvement très massif, donc on va avoir des mouvements très massifs, mais d'un autre côté, ces mouvements très massifs pourront être orientés avec une intervention au début du mouvement.
Ce que vous appelez ce qu'il appelle la dépendance au chemin.
Ça, c'est la dépendance au chemin. Donc, je reprends l'exemple de la foule. Si au début du mouvement, vous arrivez à avoir 10 figurants qui vont partir à gauche, eh bien, tout le monde va partir à gauche. Et si vos 10 figurants partent à droite, tout le monde va partir à droite. Et sur les réseaux sociaux, donc, vous avez ce même phénomène qui est que si vous arrivez à faire, donc, comme ce qu'on a abordé tout à l'heure, l'idée de l'astroturfing, c'est-à-dire des personnes qui vont se coordonner, voire s'aider avec des faux comptes qui vont être associés à des robots. Si ces personnes vont dire « Non, dans les Macron Leaks, effectivement, c'est scandaleux, il y a quelque chose de trompeur, etc. », eh bien, vous pouvez faire basculer l'opinion vers l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose de trompeur parce que tout le monde a entendu et qu'évidemment, c'est bien connu que... Et donc, cette dépendance, ce renforcement de l'information sociale, en gros, va renforcer la dépendance au ce qu'on appelle au chemin, donc aux conditions initiales, aux petites déviations qui vont donner des grandes déviations par la suite. Et donc, pour résumer, et alors par ailleurs, alors c'est un autre aspect qui est très important de mentionner pour Fun Firster, c'est et pour comprendre l'intérêt des plateformes, c'est que par ailleurs, ce que l'on montre, c'est que pour quelqu'un qui observe le système de l'extérieur, qui a toutes les données, par exemple typiquement Facebook, ils ont tous vos clics, Amazon, il a tous les achats de livres, etc.
Google, c'est exactement où
Google, vous êtes. Google, c'est où vous êtes, voilà. Donc les acteurs qui ont toutes ces données, là on montre que plus il y a de l'interdépendance entre les personnes, plus la personne qui a toutes les données peut prédire très tôt où va aller le collectif. Exemple, sur Amazon prédit au bout de quelques heures le mercredi, quelle va être, Amazon va prédire, juste après les sorties littéraires du mercredi ou de la semaine, quels vont être les livres qui vont le mieux marcher, et donc ils vont même faire de la livraison prédictive en envoyant des livres dans tel et tel endroit, parce qu'ils savent que ça va prendre et qu'il va y avoir des demandes. Donc Amazon a intérêt en fait à ce qu'il y ait de l'interdépendance entre les personnes, parce que il sait que à partir du moment où il a vendu 1000 livres, l'algorithme de recommandation va soumettre ces mêmes associations dans le futur, et donc il va en vendre beaucoup plus. Pareil pour les cinémas, le premier jour de la sortie d'un film, on sait à peu près le soir quelle salle il va falloir maintenir au bout de 2 ou 3 semaines, parce qu'on a vu la dynamique. Donc pour les plateformes qui elles observent toutes ces données et ont des données sur vous, plus il y a de l'interdépendance entre les comportements, et plus elles vont pouvoir mieux elles vont pouvoir prédire. Or, la prédiction, en économie, c'est la mère de tous les profits. Et donc, les réseaux sociaux, intrinsèquement, sont poussés à mettre plein de fonctionnalités d'interdépendance sociale, hein, donc les shares, les likes, etc., pour pouvoir mieux prédire. Mais la contrepartie de ça, c'est ce dont on parlait juste à l'instant, c'est que du coup, ça rend aussi ces mêmes dynamiques d'opinion, dynamiques sociales, plus vulnérables à une intervention au début par des acteurs qui voudraient déstabiliser. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des États totalitaires qui font de l'astroturfing. Maintenant, avec l'IA, ça va être encore pire, puisqu'on peut facilement fabriquer des faux comptes qui ont l'air de vrais. Il y a certains acteurs qui ont très bien compris qu'on peut manipuler des mouvements d'opinion en intervenant au début, et qu'après, par les recommandations sociales et tous les effets d'amplification, ça va aller dans leur sens. Et c'est pour ça qu'il y a des raisons profondes au fait que les réseaux sociaux sont incompatibles avec le modèle économique actuel, sont incompatibles avec les démocraties, parce qu'à partir du moment où vous avez un réseau social qui veut faire du profit, donc il a intérêt à renforcer l'information sociale, donc l'interdépendance entre les choix des uns et des autres, donc le côté massif des dynamiques. Maintenant, par exemple, vous regardez dans la musique, il n'y a plus que des gens qui font... qui sont milliardaires, et puis plein de tout petits. Les artistes intermédiaires sont en train de disparaître. Donc vous renforcez comme ça ces grandes dynamiques, et la prédictibilité, mais aussi la manipulabilité de ces dynamiques sociales. Et hors des États hostiles, il y en a, et donc à un moment donné, ça va finir par tomber.
Vous utilisez un terme que je trouve très juste, vous parlez de dérèglement démocratique, comme on parle du dérèglement climatique.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des institutions démocratiques comme le vote, etc., qui sont censées aboutir à un certain résultat et à garantir une certaine représentativité. Ces institutions peuvent être déréglées parce qu'elles sont dans des nouveaux environnements et que maintenant, on peut manipuler des élections. Par exemple, c'est un exemple plutôt pour des élections en Afrique, mais il y a eu l'affaire Team George. Donc c'était une société d'influence qui vend qui a une carte, et par exemple il vous dit pour 15 millions je vous repousse une élection, et donc si vous voulez payer 15 millions ils vont faire tout un tas d'opérations en ligne de manière à ce qu'il y ait des mouvements sociaux et de manière à ce que l'élection soit repoussée.
On a eu Cambridge Analytica il y a quelques années.
Voilà. C'est le même ordre de grandeur.
On va essayer quand même sur les quelques 10 minutes qui nous restent. Ça va être un peu court, bien sûr, mais on ne va pas finir sur une note négative.
Bien sûr, c'est pas le but du livre.
Vous consacrez la toute dernière partie de la conclusion de votre livre à des propositions, 18 propositions, à la fois individuelles et collectives. On n'aura pas le temps de les passer tout en revue, mais qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour tenter de renverser un petit peu ce courant du dérèglement démocratique ?
Alors, effectivement, ce qui est important à comprendre, c'est que des solutions, il y en a plein, et que ça dépend à la fois de nous, mais aussi évidemment des gouvernements, parce qu'il y a des mesures, il faut avoir une action systémique, hein, d'ailleurs, à la fois individuelle, au niveau institutionnel et collectif, que ces actions commencent à être prises. Hein, par exemple, au niveau de l'Europe, il y a des nouvelles réglementations qui entrent en vigueur. Alors, c'est un peu plus lent que ce qu'on espérait, etc.
Mais, et puis en face, ils font un lobbying très féroce.
Et en face, il y a du lobbying, effectivement. Donc, tout n'est pas gagné. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, c'est toutes ces plateformes numériques, que ce soit des réseaux sociaux, Amazon, etc., n'ont du pouvoir que parce qu'on leur donne. Hein. Elles n'ont du pouvoir que parce qu'on accepte de les utiliser, qu'on accepte de donner nos données, etc. Et donc... L'utilisateur, comme disait Coluche, il suffit qu'on arrête d'acheter pour que ça se vende plus, l'utilisateur a un pouvoir énorme là-dessus. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que des solutions alternatives existent. Par exemple, il y a des alternatives libres, c'est-à-dire des logiciels et des infrastructures qui sont auditables, transparentes, où on comprend quels sont les algorithmes, où il n'y a par exemple parfois pas de publicité, ce qui est encore autre chose que les libres, c'est non commercial. Mais donc il y a des alternatives libres et des alternatives non commerciales à tous les réseaux qu'on connaît, que ce soit Twitter, des Facebook, des YouTube pour la vidéo, etc. Ne tiennent qu'à nous, en fait, de les utiliser. Alors, le grand problème, c'est que, et c'est un peu toute la stratégie des acteurs de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'ils investissent un terrain nouveau, ils inondent le marché, et ils créent des effets qu'on appelle les effets de cliquet. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, tout le monde est sur le même réseau social, c'est très dur de partir. Hein, c'est ce que faisaient les opérateurs téléphoniques avant. Et quand vous vouliez téléphoner à quelqu'un qui était sur un autre réseau téléphonique, il fallait payer plus cher. Hein, parce qu'ils voulaient justement faire en sorte que vous incitiez vos amis à être sur le même opérateur que vous. Bon. Les régulateurs sont arrivés, ils ont dit ça, c'est interdit, vous n'avez pas le droit. Ils ont imposé aussi la portabilité du numéro de téléphone. Vous pouvez maintenant changer d'opérateur et récupérer votre numéro de téléphone, parce que c'est quand même votre identité maintenant. Hein. Donc, ce qui s'est passé avec le téléphone, la même chose devrait normalement se produire avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme le téléphone, sont devenus quelque chose d'essentiel en fait, à la vie sociale. C'est notre point de contact, etc. Sauf que, encore maintenant, quand vous êtes sur un réseau social, déjà, vos données sont exploitées à votre insu. Donc, ça, faut vraiment le savoir. On pourra en reparler, mais c'est un gros problème. Mais en plus, vous ne pouvez pas changer de réseau comme ça. Si vous voulez partir de Snapchat, TikTok, etc., vous ne partez pas avec tous vos followers. Or, c'est votre capital social. Les gens se battent pour essayer d'avoir 1000, etc. Donc, vous ne pouvez pas partir. Donc, vous n'avez pas la portabilité. Vous êtes traqué, etc. Il y a des alternatives. Par exemple, pour Twitter, vous avez Mastodon, pour en parler. Et donc, là-dessus, on peut reprendre le contrôle. Et il y a plein d'autres choses où on peut reprendre le contrôle au niveau aussi individuel, ne serait-ce que dans la manière, en fait, dont on interagit avec les contenus. Donc, il y a tout un passage aussi sur la question des émotions dans le livre, hein, comment les réseaux jouent sur nos émotions. Quand on comprend que le fait de vous bombarder d'images atroces de guerre, etc., va vous permettre de vous manipuler ou de vous pousser à signer quelque chose que vous n'auriez pas à signer si vous aviez réfléchi deux secondes, ça peut vous permettre de prendre... Si vous prenez conscience de ça, ça peut vous permettre de dire « Dès que je vois quelque chose avec un contenu émotionnel fort, je respire cinq fois, je réfléchis deux secondes, et après, éventuellement, je peux y aller. » Donc, il y a plein de petites techniques comme ça que je détaille dans le livre.
Et d'un point de vue institutionnel, vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence notre émission, de même que le gouvernement finance ou subventionne des journaux, la presse...
Tout à fait. Il faut pas tout faire reposer sur l'utilisateur. Il faut aussi avoir des actions institutionnelles. Et il faut bien voir qu'à une époque où les réseaux sociaux sont aussi centraux dans la formation des opinions, la circulation de l'information, il faut se poser la question du statut de ces espaces-là. Et notamment, moi, je défends vraiment l'idée qu'il faut qu'on ait des biens publics numériques sous forme de réseaux sociaux, ce qui n'empêche pas d'avoir des réseaux sociaux privés à côté, mais il faut au moins que le citoyen ait la possibilité d'aller sur une place publique, de même qu'on a des places publiques physiques. Hein. Tout l'espace physique n'est pas privatisé, heureusement, on a des places publiques. Il faut avoir des places publiques numériques où on a la garantie que nos données ne sont pas exploitées, qu'on n'est pas espionné, que ça n'a pas été utilisé contre nous, qu'on n'est pas ciblé par de la publicité et que l'information qu'on reçoit est neutre, c'est-à-dire pas manipulée algorithmiquement. Moi, je suis vraiment pour qu'on développe ces espaces publics numériques. Et une des pistes, par exemple, possibles, c'est de dire qu'on va, de même qu'on subventionne des journaux qui ont satisfont un certain critère, notamment en termes de niveau de lectorat, ils ont une subvention d'État pour opérer et faire de l'information. Maintenant, il y a tout un ensemble de réseaux sociaux alternatifs libres, donc qui satisfont un critère de non commercial, transparent, etc. Ces réseaux-là pourraient très bien être aussi subventionnés dans leur fonctionnement pour aider en fait à diffuser ce genre d'infrastructure.
Il y a aussi toute une éducation à faire auprès du grand public hein, sur les réseaux sociaux. Votre livre y participe d'ailleurs.
Bien sûr. Oui.
Hein, on peut apprendre à déjouer certains pièges hein, sur les réseaux, sur Internet. L'éducation à ces questions va devenir de plus en plus importante. Hein. Ça peut rentrer dans le cadre d'une certaine forme d'éducation civique. Apprendre à lire de manière critique les nouvelles, que ce soit dans la presse écrite, à la télévision ou sur Internet. Ça doit faire partie aussi de toutes ces mesures qu'on peut prendre et qu'on peut encourager pour essayer de renverser cette tendance plutôt délétère que vous avez exposée dans ce livre. Il va bientôt être temps de laisser la parole à nos amis du monde merveilleux du travail. Je vous laisse, bien entendu.
Juste pour répondre rapidement là-dessus, c'est le livre est aussi conçu comme un manuel d'autodéfense du numérique. Et par rapport à la question du choix des réseaux, je pense qu'il y a deux questions importantes qu'il faut se poser. C'est est-ce que vous êtes maître de vos données ?
Bien sûr.
Est-ce que vous êtes maître de votre capital social ? C'est-à-dire les gens qui vous suivent, est-ce que vous pouvez partir avec ? Et en fait, il y a assez peu de réseaux sociaux actuellement qui vous permettent ça. Et l'un des seuls de type Twitter, par exemple, c'est Mastodon. Mastodon vous permet de ça parce que c'est un protocole et pas un réseau. C'est-à-dire, c'est décentralisé et vous pouvez migrer avec tous vos abonnés d'un réseau ou à un autre si vous n'êtes pas content de l'administrateur, comme c'est le cas actuellement sur Twitter où vous avez quelqu'un qui a racheté et qui a peut-être des vues différentes des vôtres.
Merci David Chavalaria. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Toxic Data, comment les réseaux manipulent nos opinions. C'est en poche aux éditions Flammarion dans la collection Champ Actuel. C'est une lecture tout à fait recommandable et que je vous recommande fortement. Merci encore à vous tous. Je ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes un bon solstice d'hiver et on se retrouve, si tout va bien, le 15 janvier prochain. Lulu, tu peux envoyer la musique.
est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay.
Édito du lundi 18 décembre 2023 du Monde Merveilleux d'après, nous recevons Hélène, co-animatrice de l'émission Fab Libre sur Radio Libertaire 89.4, tous les mercredis des 18h30 à 20h30, 12 heures d'affilée.
Bonsoir.
Ah, donc c'est pour les auditeurs de Radio Libertaire, c'est une voix qui n'est pas...
Inconnue.
Qui est inconnue et qui est même plutôt familière.
Oui, fait des années.
Un petit peu quand même. Donc, nous allons évoquer ensemble, on va essayer en tout cas d'évoquer ensemble Séverine et Germaine Berton. Pour moi, active plutôt dans le milieu de la presse libertaire et anarchiste. On va essayer de faire chronologiquement, un personnage peut-être un petit peu moins connu des auditeurs de Radio Libertaire, c'est Marie Harris Jones, plus connue sous le nom de Mover Jones, et Lucy Parsons, qui sont des militantes syndicalistes révolutionnaires en Amérique du Nord. Et puis, si on a le temps, parce qu'en fin de compte, on a peut-être été un petit peu ambitieux, on essaie de faire un petit tour sur Simone Veil et les Mujeres Libres dans le cadre de la Révolution espagnole, dans le cadre de la Révolution espagnole et de la CNTE espagnole, donc. Mais tout de suite, comme il n'y a pas de chronique, on va s'écouter une chanson. Voilà, merci Bénédicte.
Calling the ones who have come before.